Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Cette réunion se tient 5 années après que mon prédécesseur, M. Pierre Messmer, avait accueilli ici, pour une séance solennelle, une délégation de l'Académie roumaine. Et une année après que vous-même, Monsieur le Président, ayez invité à Bucarest une importante délégation des académies et de l'Institut, a participé aux cérémonies solennelles du 140e anniversaire de l'Académie roumaine à Bucarest. Cérémonie dont nous gardons tous un souvenir inoubliable. Il y a quelques mois, la Roumanie démontrait son attachement à la langue française en organisant avec un brillant succès à Bucarest le 11e sommet de la francophonie. Et dans quelques mois, se tiendra à l'Institut de France une importante rencontre des académies européennes pour laquelle nous avons adressé une invitation à votre académie et dont nous espérons qu'elle prendra une part active à cette rencontre pour toute raison de nos liens, de la place de l'Académie roumaine dans l'ensemble des académies européennes. Et nous avons été heureux, Monsieur le Président, que vous ayez pu participer à la séance de réception lundi, il y a 2 jours, sous la coupole de Monsieur Juncker, Premier ministre du Luxembourg, comme associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques. Et enfin, je dois dire que j'ai reçu un courrier de Monsieur le professeur Haiduc, président de l'Académie roumaine, m'annonçant une élection qui me fait grand honneur et à laquelle je suis extrêmement sensible pour encore beaucoup de raisons, mais en particulier celle qu'elle m'annonce une occasion de revenir à Bucarest, ce dont je me réjouis infiniment. C'est donc une chaîne ininterrompue de visites, de rencontres, de travaux en commun qui unit l'Académie roumaine et les compagnies du Quai de Conti, je les désigne ainsi pour être court. Une chaîne à laquelle nous sommes très attachés, changez de mot, c'est une chaîne à laquelle nous sommes attachés et dont nous nous réjouissons infiniment. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans cette série de rencontres et je dois dire que les excuses désolées des confrères empêchés d'y assister montre assez combien ces réunions suivies leur importent et leur regret de ne pas être ici avec vous pour vous accueillir et entretenir de nouveau des relations qui leur sont chères. Cette réunion n'est pas le retour de notre déplacement à Bucarest l'an dernier pour cette fête fastueuse pour laquelle nous étions venus avec nos habits nous mêler à l'ensemble de l'Académie roumaine en habit et qui nous a tant impressionnés. Cette réunion est comme un point d'orgue de cette manifestation de l'année dernière, un prolongement très bienvenu, un complément indispensable pour garder le souvenir de ces moments heureux. Vous allez en effet, Monsieur le Président, présenter l'ouvrage magnifiquement édité qui rend compte de ces cérémonies, un ouvrage que nous rangerons dans nos annales à une place privilégiée et que M. Eugène Simion va maintenant nous présenter. Et je vous redis à tous, mes chers collègues, toute notre joie de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette circonstance.
Monsieur le chancelier, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Roumanie en France, Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Monsieur le secrétaire honoraire, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie, chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion, mais en même temps avec une très grande joie que je prends la parole. D'abord pour remercier au nom de la délégation de l'Académie roumaine l'accueil et l'organisation, l'accueil chaleureux qu'on a eu pour cette cérémonie. Je suis venu, comme vous venez de dire, Monsieur le Chancelier, accompagné de toute une délégation. Je voudrais mentionner ici la présence des deux vice-présidentes de l'Académie roumaine, Monsieur le professeur Berindei et Monsieur le professeur Marius Sala. Il fallait commencer d'ailleurs avec un autre nom, avec Maia Simionescu, le professeur Maia Simionescu. C'est parmi nous le seul scientifique parmi nous, les humanistes. Il a été pendant 8 ans vice-président de l'Académie roumaine et le pilier de cette construction qui est le livre dont on va parler tout de suite. Et aussi dans notre délégation, fait partie d'Dan Heulik, membre de notre Académie. Il est président honoraire de l'Association internationale des critiques d'art. Aussi, nous sommes accompagnés d'un certain nombre de membres d'honneur de notre Académie français et aussi d'un certain nombre d'amis français et roumains qui ont voulu exprimer par leur présence la sympathie qui nous garde. Un grand merci à tous. Monsieur le chancelier, comme vous venez de dire, en octobre 2002, l'Institut de France organisait une réunion solennelle en honneur de l'Académie roumaine. C'était, si j'ai bien retenu, la première fois depuis 50 ans. Une rencontre qui, pour moi, je peux le dire, je ne peux pas l'oublier. Je pourrais dire même que c'était une rencontre historique, mais j'ai peur que le mot historique, le mot en question, soit un peu déprécié à cause de son abusive utilisation, surtout dans le langage politique. De toute façon, on a discuté à ce moment-là sur la culture et le processus de la mondialisation et aussi sur la tâche qui nous incombe à nous, les représentants de la vie intellectuelle de nos pays, dans ce processus si controversé. Je me souviens des mots prononcés par Maurice Drouon, et je suis très content de le revoir ici. Les mots prononcés à cette occasion. Il fallait, disait-il, je cite, « humaniser la mondialisation par le maintien de la diversité des cultures et la recherche de leur harmonie. » Et ensuite, je cite encore, « dans l'Europe aussi, il faut veiller à résister à l'uniformisation comme à la particularisation. » Fin citation. un beau discours et je le trouve un très juste discours. Monsieur le chancelier, mesdames, messieurs, en avril 2006, à Bucarest, on a discuté encore sur ce thème et aussi sur le rôle de la francophonie. La francophonie définie comme une famille spirituelle, définie par Madame Hélène Carrère-Dancos, qui était là. Oui, c'est juste, c'est correct. La francophonie, c'est une famille spirituelle qui nous rassemble, qui nous unit. Je dirais que la francophonie, en dehors de ça, représente un modèle culturel. Ça veut dire une langue, une tradition spirituelle, un mode de vivre, un mode d'être dans le monde et, comment disent souvent les philosophes, un mode de se situer dans le monde. Sur ce sujet, on a discuté, je répète, à Bucarest, quand on a fêté ensemble 140 ans de la fondation de notre académie. Ce n'est pas le moment de reprendre ce thème, mais c'est toujours nécessaire de nous poser la question sur l'avenir de la culture dans ce monde qui se globalise rapidement. Un monde d'enfants où tente à s'instaurer une nouvelle lingua franca nommée en dérision le globish. Ce modèle culturel, c'est-à-dire le modèle français, la francophonie, continue, je crois, nous croyons, à fonctionner maintenant. Il est, je crois, encore séduisant. On peut compter encore sur lui. Il est encore nécessaire en Europe, et s'il est nécessaire en Europe, il est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, pour terminer, voilà le livre qui se trouve là. Vous pouvez le prendre. Voilà le livre qui nous parle d'une liaison longue et très durable. Une liaison, bien sûr, intellectuelle, mais aussi, je peux le dire, une liaison d'amour. Il s'agit de deux compagnies. L'une qui s'approche de 40 ans, c'est l'Académie française, bien sûr. L'autre, la nôtre, qui va fêter bientôt 140 ans. Deux académies qui ont le même modèle, je crois, à peu près le même message. Rassembler autour d'eux les hommes exceptionnels d'une société, en même temps de cultiver et de protéger les valeurs de notre humanisme commun, qui est l'humanisme européen. Voilà, mesdames, messieurs, un thème qui sera discuté, j'en suis sûr, en septembre prochain, à Sinaia ou à Bucarest, à notre colloque Penser l'Europe, qui est arrivé, qui va arriver cette année à 6e session. Je suis ravi que, à partir de cette année, l'Académie française et j'espère toutes les autres académies de l'Institut de France s'associent à organiser ensemble cette réunion. Je vous remercie encore une fois chaleureusement. Monsieur le chancelier, si vous acceptez que monsieur le professeur Dan Berinday, vice-président, va dire deux mots, va communiquer deux mots sur...
Monsieur le chancelier, madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, excellence, monsieur le secrétaire perpétuel et ami, monsieur Leclan, très bon ami, chers confrères français et roumains, C'est une occasion rare de nous trouver ici. Et en même temps, je dois dire que, en ce qui me concerne, c'est une occasion heureuse, non seulement parce que j'ai participé et assisté surtout aux efforts de notre ancien président et si efficace président, M. Eugène Simeon, pour réaliser non seulement ce livre, mais pour réaliser toute l'action qui a eu lieu l'année passée. Mais je suis heureux aussi pour pouvoir vous confirmer, si c'est besoin, s'il y a besoin d'une chose pareille, votre élection de M. le chancelier et de Mme le secrétaire perpétuel de l'Académie française dans notre Académie. Je dois vous dire que vous représentez le numéro 161 et 162 des membres d'honneur français. Le commencement a été représenté par le premier membre d'honneur élu par la société académique. Elle ne portait pas encore le nom d'Académie roumaine. C'est Edgar Quinet. À partir d'Edgar Quinet, toute une série des plus représentants, des personnalités les plus représentatives de la science, de la culture, de l'art français, ont été présents en tant que membres d'honneur de notre Académie. Parce que vous êtes historiens, tous les deux, parce que je suis historien, je veux aussi vous citer certains de vos prédécesseurs. Ernest Desjardins, Émile Legrand, Louis Léger, Alfred Rambaud, Schlumberger, Charles Dill, Ernest Babelon, Georges Lacour-Lagaillé, Henri Faucillon, Charles Bémont, l'ami de Nicolas Yog, d'abord son professeur, ensuite son ami, et ensuite Gustave Gloss, Jacques Ancel, Ernest Labrousse, Jérôme Cacopineau, et je ne cite pas ceux qui sont aussi ici présents et qui ont été élus aussi en tant que membres d'honneur de notre Académie. Je veux vous dire que pour nous, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un grand plaisir, si je peux dire, si je peux le dire, parce que nous aimons la France. En dehors de toute politique, en dehors de la mondialisation ou la globalisation, nous aimons la France. Personnellement, je dois dire que j'ai trois patries. J'ai ma patrie, la Roumanie. J'ai ma petite patrie, l'Académie roumaine. Et j'ai aussi encore la seconde patrie, c'est la France. Donc, pour moi, c'est un honneur et une joie de vous pouvoir confirmer votre élection. Et en même temps, je dois vous dire que vous avez eu, dans mon honoré collègue Eugène Simeon, un combattant ardent pour votre élection. Parce que, je dois vous confesser, nous avons seulement 4 places libres. Et 2 candidatures françaises étaient un peu trop, si vous voulez, pour certains de nos collègues. J'avais peur que cela ne va pas être possible. Ou cela va être passé successivement. Mais M. Simeon a combattu tellement bien dans le présidium de l'Académie que vous voilà, vous êtes membre d'honneur de l'Académie roumaine et je vous félicite de tout cœur.
Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents, messieurs les membres de l'Académie roumaine et mesdames les membres de l'Académie roumaine, monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire, chers confrères, je voudrais dire mon émotion et ma gratitude à l'Académie roumaine. C'est un grand honneur et c'est un grand bonheur. Je voudrais en 2 mots dire que vous avez dit que vous aviez 3 patries et que la France en faisait partie. Ceux qui étaient réunis au mois d'avril dernier à Bucarest le savent. D'abord, j'ai des liens de famille avec la Roumanie. Et d'une certaine façon, vous le savez, j'y suis aussi chez moi. Et par conséquent, c'est une des raisons de mon émotion. La seconde, elle tient au fait que je suis une Européenne de combat. J'ai été députée européenne. J'ai été au Parlement européen précisément à l'heure où nous nous battions pour préparer votre arrivée. C'est un très grand moment pour l'histoire de l'Europe que vous, vieux pays européens, nous ayons rejoints dans notre organisation. Donc c'est une joie considérable pour moi. Et puis, il y a une troisième raison qui tient aussi aux relations entre la France et la Roumanie. L'an dernier, nous avons célébré, et M. Leclan et moi, nous avons pris une certaine part dans l'organisation de cela. Nous avons célébré le 150e du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Crimée. La France retrouvait sa place véritable dans le monde et son attention a été portée vers la Roumanie. Vous le savez, c'est une part de notre destin commun. Donc à tous égards, cette élection me fait un immense honneur et comme historienne, vous m'avez apporté une grande joie dont je vous remercie infiniment. J'essaierai de m'en montrer digne et de faire ce que je peux pour votre académie.
Chers amis, je ne vais pas distribuer tous les noms et tous les titres. Simplement, je dirais, chers amis, et tout le monde sera compris dedans. Cette réunion, comme tout ce qui a tout ce qui l'a précédé, entre nos académies, c'est-à-dire entre les élites de nos deux pays, me fait une joie profonde, témoigne de l'importance de la langue française dans l'Europe d'aujourd'hui. Et si la langue française, ce n'est pas pour des raisons simplement patriotiques que je m'en réjouis. Et c'est au-delà. C'est pour ce que porte avec elle la langue française. Et elle porte un droit. Le droit est à la base de tout. C'est la manière dont nous vivons, la manière dont nous définissons nos rapports essentiels, nos rapports entre nous, personnes, et entre nous, pays, États. Et savoir que c'est autour de la langue française que nous nous comprenons, que nous nous entendons et que nous fabriquons sans cesse nos règles de vie et a une importance essentielle. Nous sommes là devant un monde qui s'agrandit, qui s'élargit, un monde dont la nouveauté touche absolument toutes les parties de notre être et que ce soit les parties mentales, que ce soit la culture, que ce soit les archives, ou que ce soit la réception des nouvelles immédiates, la transmission de nos pensées instantanées, voilà, tout se modifie et tout doit être réglé. Il y a pour tout un droit qui doit se mettre en place de façon que les activités s'harmonisent les unes avec les autres. C'est pas commode, c'est pas simple. Je pense que c'est en français que ça peut se faire le mieux. Et notre réunion aujourd'hui prouve que c'est chose possible et que nous y travaillons constamment. Alors, c'est à ce travail que j'adresse mes souhaits, mes vœux, et n'ai pas la possibilité d'aller interroger la pitié, n'ai pas la possibilité d'aller interroger les sibylles de Cume et d'ailleurs, simplement dans nos cœurs, ayons cette petite partie de volonté, de souhait, d'espérance pour que notre vie en commun soit la plus heureuse possible.
Thank you.